Ça rejoint tout à fait les propos de Mère Teresa, qui disait que ce qu'elle faisait, alors qu'on lui tressait évidemment des couronnes de laurier en disant c'est extraordinaire, détrompez-vous, je ne fais rien, je ne fais qu'accompagner des mourants. C'est la chose la plus dérisoire qui puisse se trouver, surtout dans un pays comme l'Inde où il y en avait par dizaines de milliers. Et elle dit par contre, si on donc ça n'est qu'une petite goutte d'eau de rien du tout dans l'univers, mais si cette goutte d'eau venait à manquer, alors est-ce que l'humanité serait encore l'humanité?
Voilà, donc ce qui compte dans le fond, c'est ça. C'est vous allez voir quand vous viendrez, Didier, c'est nous, on le vit à échelle humaine, parce que le problème des grosses associations, c'est que ça devienne des structures énormes. Bien sûr. Le secours, le secours populaire, le SAMU social, on les voit. Mais le problème, c'est, ça devient des usines à gaz, et à un moment donné, ils perdent de vue pourquoi ils sont là. Alors nous, à notre petite échelle, on les connaît. Quand on les voit et qu'ils nous sourient, j'ai quelqu'un qui est venu du Nord, qui nous prennent, qui nous congratule, qui sont heureux, qui... Eh bien écoutez, on aura fait notre boulot d'homme, et puis surtout ça nous renvoie à la qualité essentielle, puisque ce jour de Pâques, la qualité chrétienne essentielle, l'humilité. J'avais dit à Marion il y a 6 ans, vous voyez, vous allez rentrer, quand elle est venue à Edmarod, on va se coucher dans notre lit, mais eux ils seront là sur leur coin de trottoir. Et je peux vous dire qu'en face au Jardin des Plantes, où il y a Michel, qui a 67 balais, il y a un vent, je ne sais pas comment il fait pour dormir, il est là et il passe la nuit là. Alors, je voulais aussi parler rapidement du social, et pour reprendre les propos de notre ami, puisque je vous ai dit que je sortais de ma condition ouvrière, je viens des milieux, à ma grande honte, marxiste, et je ne renie rien de mon passé, je viens de l'extrême-gauche.
C'est la vie, ça aussi. Hein.
Et, mais je ne renie rien de...
Reprenons ce que vous disiez tout à
l'heure. Je ne renie rien de mon passé, mais ce qui est intéressant, c'est de s'interroger pourquoi, dans le fond, avec Sartre et d'autres, le bon sauvage ne peut être que de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a tout un dolorisme qui est issu du marxisme avec Sartre et tous ceux qui ont suivi Sartre, avec les structuralismes, Lacan, Foucault, Deleuze et compagnie, qui fait que dans le fond, tout ce qu'ils appellent les asociaux, c'est-à-dire les invertis, les prostituées, les toxicomanes, les immigrés, tout cela, c'est le genre humain qu'il faut protéger, qu'il faut mettre en avant contre les oppresseurs qui ne peuvent être bien sûr que blancs, européens et chrétiens. Et cette philosophie dans laquelle moi et ma génération on a baigné, j'en suis sorti dans l'école d'éducateur quand j'ai fait mes études d'éducateur spécialisé, où on me ressortait les antennes cantilènes de si on avait choisi les soviets au lieu de la révolution n'aurait pas été dévoyée. Je ne pouvais pas adhérer à ça, mais dans les écoles d'éducateurs, c'est ce qu'on enseignait. Et on enseigne un discours dit d'extrême gauche. Et donc, le problème des journalistes, école de journalisme, le problème des éducateurs, le problème de toutes les structures, c'est que dans le fond, ils sont imbibés de cette vision
formatée.
Et ils ne se rendent pas compte quelque part dans quelle naïveté ils sont enfermés. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, en préambule, avant qu'on rentre dans la pièce, nous sommes en train de changer. Parce que ce que ne voient pas tous ces gens-là, c'est que ce monde moderne, on parlait tout à l'heure du communisme ou de l'islam, au-delà du communisme et de l'islam, nous, en Europe, on a chassé la féodalité petit à petit, on l'a remplacée par le monde moderne individualisme, c'est une résurgence du monde archaïque, du monde holiste qui a été vaincu par l'industrie, comme l'a souligné d'ailleurs l'Amérique a voulu prendre, ou l'Angleterre, les biens, le pétrole, qui a été vaincu et qui maintenant se rebelle contre la domination de ces gens-là. Parce que quand vous suivez le fil conducteur, ce sont des mondes différents, mais ils ont tous un point commun, ce sont des mondes holistes. Alors holiste, c'est donc l'individu n'existe dans le monde holiste que par rapport au tout. Hein, donc c'est le monde communautaire, alors que le monde moderne c'est le monde individualiste, le monde dans lequel on est,
et c'est une révolutionnaire,
une résurgence du monde holiste. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que nous fonctionnons avec nos schémas individualistes pour des gens qui fonctionnent avec leur schéma holiste, et donc c'est comme si on leur parlait chinois ou hébreu, et c'est là à mon avis le danger le plus grave, parce que nous on est dans ce droit de l'homisme un peu béatifiant, bel lent, et eux sont dans leur schéma holiste. Et la confrontation risque d'être très grave, parce que quand deux discours ne se rencontrent pas, ils ne peuvent que se heurter. Et dernier élément, l'histoire l'a toujours montré, les modérés, c'était vrai en Algérie, ça a été vrai pendant la guerre d'Espagne, sont finis avec le temps par être laminés par les radicaux. Les radicaux finissent par laminer les modérés. Et en tenant ce discours pseudo-humaniste, on se prépare des lendemains qui déchantent, et c'est malheureux de le dire, mais toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, n'a pas compris que nous rentrions dans autre chose. Nul ne peut dire qu'est-ce qu'il en sortira, mais c'est autre chose qui sera pas du tout ce qu'on a connu, et qui sera peut-être de l'ordre de ce qu'on a connu en 1789, un changement. De quelle manière, nul ne le sait, mais on est entré dans autre chose, et le devenir me paraît bien sombre parce qu'on s'y prépare pas.
J'observe, Pasteur Blanchard, que dans les noms des personnalités qui viennent dans les maraudes, on entend assez peu les noms des grandes personnalités de gauche. C'est-à-dire des gens qui nous font des leçons de morale sur l'humanisme, enfin, etc. Moi, je suis toujours extrêmement surpris de voir comment, parfois même des gens d'église, nous incitent à recueillir chez nous des migrants, disant chaque famille doit accueillir un migrant. On sait quelle est la situation de l'immobilier aujourd'hui et la façon dont les familles sont logées. Mais chacun d'entre vous doit prendre un migrant. Chaque paroisse de France doit accueillir un migrant. Bon, mais... D'abord, un, ça n'est pas fait naturellement, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, car il y a des gens, heureusement, qui ont la possibilité de le faire, ceux qui donnent des leçons,
ils
ne le font jamais.
Ouais.
Quel est l'homme politique qui a montré l'exemple? Quel est le ministre qui nous disant « vous êtes des méchants parce que vous n'accueillez pas » Quel est le ministre qui dit « bah écoutez, moi je me prends au mot et dans mon 400 mètres carrés, j'accueille une famille de Syriens ?»
Mais vous savez Didier, tout ça, c'est de l'ordre d'idéologie. Rousseau a inventé le bon sauvage, alors que tout le monde savait que le bon sauvage n'existait pas, et que en réalité, ce que les Européens avaient rencontré en Amérique latine, c'était le cannibale. Donc le bon sauvage n'existait pas. Et ce bon sauvage, avec Sartre et toute l'extrême gauche, voilà, par essence, tout ce qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, on parle pas de l'esclavage qui a continué et qui continue d'ailleurs, on parle pas des femmes vendues, on parle pas des... Voilà, c'est angélisé. Et c'est que les Européens, donc tout ça, et quelque part, la faute des gens de droite, et de droite nationale moins, mais de droite, c'est quelque part d'avoir cautionné ce genre de discours. Pour avoir la paix sociale, on a laissé la culture après-guerre. Exactement. À la gauche, à l'extrême gauche, qui a tenu le pavé pendant... Moi, je suis bien placé pour le savoir. Et on leur a laissé tout ça, et au bout du compte, ça se retourne contre nous. Mais dans le fond, on n'est pas dans la réalité, on est dans le schéma intellectuel, voilà. Et souvent, vous remarquerez que ce sont des gens très très riches, les bobos d'extrême gauche, des gens très très riches, très bien placés, qui tiennent des discours lénifiants, alors que les vrais gens du peuple, eux, souvent pragmatiques, se rendre compte à quel point tout cela est nuisible pour notre avenir.
Vous savez, je raconte toujours cette anecdote parce que lorsque il y a des années, je ne sais plus dans quelle depuis combien de temps, il y avait eu un groupe de Maliens qui s'était emparé d'un gymnase à Cachan.
Oui, je m'en souviens.
Et alors, évidemment, ils vivaient dans ce gymnase dans des conditions d'hygiène absolument catastrophiques parce qu'ils étaient entassés là, enfin, etc. On les avait amenés. Ne nous trompons pas, c'est pas un mouvement spontané d'un groupe qui se réunit là pour avoir un abri. On les amène ici dans ce gymnase, municipalité communiste à l'époque d'ailleurs. Et on organise tout un raout médiatique à tel point que j'ai voulu voir ce qui se passait, donc je m'y suis rendu un matin. Et là je m'aperçois qu'en face du gymnase, il y avait une très grande estrade qui avait été installée pour la presse, pour les caméras. De façon à ce qu'on puisse filmer un peu plus en plan haut, enfin, etc. Donc il y avait véritablement une organisation, tout simplement. Et là, plusieurs actrices et acteurs de cinéma, donc les people, comme on dit, pardon, on mettra un euro dans le cochon, qui arrivent là, en hurlant devant les caméras, en disant « oui, c'est un scandale !» je crois que c'était un gouvernement, à l'époque Chirac, je crois, quelque chose comme ça. « Oui, c'est un scandale, le gouvernement ne fait rien pour ces pauvres gens, nous devons les aider, l'État doit faire. » Et je rentre dans la conversation, et je vais dans le même sens, en disant « oui, vous avez raison, l'État ne fait rien, mais enfin, l'État, c'est nous, dis-je. » Et je m'adresse à la comédienne qui, très très en cours, qui était là, et je lui dis « mais vous, avec votre appartement de 400 mètres carrés sous les buts de Chaumont, peut-être est-ce que vous pourriez faire un effort ? Et elle me regarde devant la caméra d'FR3 et elle me dit, petit con. Et ça, c'est pas passé à l'antenne.
C'est pas mal.
Et c'est pas passé à l'antenne, je le regrette.
Ouais.
Parce que, enfin, voilà. Alors, évidemment, on va me dire, oui, c'est très anecdotique, ça ne résout pas le problème. Ça, on le sait bien. Bon. Mais je pense que ces gens qui sont des donneurs de leçons, on ne les retrouve jamais ou très peu sur le terrain en train de faire. Moi, je suis très étonné aujourd'hui. Voici que il y a des centaines d'associations qui travaillent dans l'humanitaire, qu'on a parfois critiqué et parfois avec juste raison. Mais enfin, il y a quand même aujourd'hui une, j'allais dire, une professionnalisation, le terme est ambigu et dangereux, mais il y a une professionnalisation de l'humanitaire qui peut aller dans le bon sens. Toujours est-il que depuis des années, on entend ces associations qui disent la seule solution pour aider ces populations, c'est de les aider chez elles. Ouais. Le problème de l'immigration ne se règle jamais dans le pays d'arrivée, mais toujours dans le pays de départ. Il faut donner à ces gens les moyens de vivre chez elles. Bon, c'est à ces populations. Or, aujourd'hui, l'Europe a décidé de faire tout le contraire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte de ne pas déclencher des guerres dans des pays incertains à l'autre bout du monde, pour des raisons politiques, idéologiques dont vous parliez tout à l'heure, il me semble important de pouvoir faire en sorte que ces populations puissent vivre tout à fait correctement, en harmonie avec les groupes sociaux qui existent, dans leur pays d'origine. Or, que fait-on aujourd'hui ? On dépense des milliards d'euros pour les faire venir chez nous. On les déracine, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'attention, l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de ces gens, ils seront déracinés, et pendant des générations.
Vous savez, ce qui s'est passé en 68, et qui est un peu similaire à ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, c'est ces classes dominantes qui vivent comme un fardeau leurs privilèges. En 68, on a vu des gens, un Sartre par exemple, se ridiculiser, prêter la main aux gauchistes, qui lui imposaient tout et n'importe quoi, et quelque part, ils sont là de leurs privilèges. Et on sait ce que ça a donné au moment de la Révolution, toutes ces idées nouvelles. Marie-Antoinette avait fait construire une bergerie à Versailles, elle voulait vivre selon l'état de nature, on sait comment ça finit. Le plus terrible, c'est que ça risque de finir comme ça, parce que Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête.
Aujourd'hui, d'ailleurs, les grandes conférences de presse de tous ces gens se font à la Closerie des Lilas ou à la Brasserie Flore, où la plupart des gens pour lesquels ils luttent ne pourraient même pas se payer un café.
Mais oui.
C'est
oui,
évident.
Mais oui. Alors, nous qui sommes d'authentiques gens du peuple, et quand il y avait un peuple, je pense que le peuple français et la classe ouvrière dont j'ai fait partie, et quand il y avait une classe ouvrière, avait le sens des réalités. Et malheureusement, une certaine bourgeoisie, peut-être pas tous, mais une certaine bourgeoisie prisonnière de certains dogmes, un idéalisme, quand tous les hommes vivront d'amour, comme dans la belle chanson, très belle chanson, il n'y aura plus de misère, quelque part est en train de préparer comme en 1789, et ça a été les premiers d'ailleurs, vous remarquerez, les premiers à passer sous le bio, Condorcet qui a été quand même le chantre de tout ça, Condorcet fini lui aussi, voilà, c'est terrible de le dire que quelque part, pris dans les nuées, comme disait Maurras, pour qui j'ai pas beaucoup d'affection, mais qui a dit des choses intéressantes, pris dans leur nuée
très
intellectuelle,
intéressante,
ouais,
oui.
Pris dans leur nuée intellectuelle, et il y en a, ayant assez de leurs privilèges, quelque part, font dans un tiers-mondisme de bas étage, de carnaval, voilà, et ils se préparent des lendemains qui déchantent, mais malheureusement, c'est le peuple de France et les peuples d'Europe qui paieront la note.
Les révolutions ne sont jamais au bénéfice de ceux qui les déclenchent.
Oui.
Malheureusement.
Oui.
Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Enfin, voilà. Rappelez, cher pasteur, rappelez le numéro où on peut
alors, donc,
vous joindre et les différentes associations.
Voilà, donc, vous pouvez me contacter au 06 74 03 18 15, 06 74 03 18 15. Pour aller sur mon blog, aller sur Google, mettre Pasteur Blanchard, le premier lien, vous tombez sur le blog, et là vous tomberez sur le blog d'Identité Luthérienne. Si vous voulez avoir un point de vue traditionnaliste luthérien, il y en a encore aux États-Unis, malheureusement il y a en France, c'est, ça n'existe plus, on est la dernière tribu des Mohicans. voilà, vous tomberez sur Identité Luthérienne. Merci de votre accueil et ravi à l'idée de vous voir.
Et Action Sociale Populaire, donc, c'est le pasteur Blanchard
voilà,
également.
Voilà, donc c'est le social, vous verrez des photos, des maraudes, je mets des reportages sociétaux avec un peu de hauteur. Je veux pas être dans le factuel ou le quotidien. Je veux me placer un peu en hauteur parce que dans le fond, la réflexion ne peut être bonne que si on se place d'un, j'aime bien cette expression, d'un belvédère où on peut voir les choses et voir la plaine.
C'est vrai que le point d'observation que l'on a est fort important pour comprendre la réalité du monde.
Oui, tout à fait.
Merci, pasteur Blanchard.
Merci, mon
cher. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques et que si nous avons parlé de choses extrêmement concrètes, c'est évidemment parce que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, et que nous sommes totalement dans le message du Christ.
Tout à fait.
On aurait pu parler du Christ chassant les marchands du temple. Mais ce sera pour une prochaine fois, si vous le voulez bien.